La première,
9h-10h,
l'histoire continue,
Bertrand N. Hélène Maquet.
Je suis Joe Napoli, j'espère de toutes de venir ici à Combe-la-Tour pour un musée à le festival.
Le festival de jazz de Combe-la-Tour.
J'aime beaucoup Duke Ellington, j'aime beaucoup Lesson Young, tout ça.
I'd like to sing a song for you now.
Les moments mythiques naissent souvent d'un enchaînement de hasards.
On ne peut pas décider à l'avance qu'un événement, qu'un concert, qu'un festival vont entrer dans l'histoire.
Qu'est-ce qui fait la magie? Qu'est-ce qui fait l'étincelle? Qu'est-ce qui fait le surplus d'âme?
Sans doute une bonne programmation qui résonne avec l'époque, les bons artistes au bon moment, et puis souvent, il faut une bonne histoire.
En 1959, le festival de jazz de Comblain-la-Tour a probablement réussi à rassembler tout ça. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de l'Histoire continue.
Un épisode un peu plaisir aujourd'hui, un peu nostalgie, un peu belles heures de la Belgique. Retour sur un événement qui a marqué toute une génération d'amateurs de jazz et de musiciens belges aussi. Le festival de jazz de Comblain-la-Tour, on l'a un peu oublié. Mais entre 1959 et 1966, au début de chaque mois d'août, un petit village des bords de l'Ourthe devenait le centre du monde du jazz.
Et c'est l'histoire de ce festival que nous vous racontons aujourd'hui, festival pour lequel nous possédons de nombreuses archives, puisqu'on trouve parmi les co-organisateurs deux journalistes de la RTBF, c'était l'INR à l'époque, Jean-Marie Peterken et Nicolas Dor. Un festival qui a accueilli une bonne partie des grandes stars du jazz des années 60, les noms claquent, hein, John Coltrane, Ray Charles, Nina Simone, Stephan Grappelli, Chet Baker, et la liste n'est évidemment pas finie.
Et puis il y avait aussi évidemment des musiciens belges à Comblain-la-Tour, dont un tout jeune guitariste devenu célèbre depuis qui était là en 1959 pour la première édition. C'était Philippe Catherine qui nous fait le plaisir d'être avec nous pour cette émission. Bonjour.
Bonjour.
Vous avez des souvenirs, ça remonte, hein, on faisait le compte, 63 ans. Vous avez des souvenirs de cette première édition du festival de Comblain-la-Tour?
Oui, je me souviens très bien. Et moi, je ne savais pas ce que c'était que le Comblain-la-Tour du tout, avant d'y aller.
Je crois que personne ne savait.
Non, mais j'étais invité par l'orchestre de Jackie June, qui s'appelait le Jump College. Et il m'avait découvert, juste quelques temps avant le festival de Comblain-la-Tour, et je devais avoir, je ne sais pas quel âge, mais je venais avec papa, maman et ma petite sœur, qui devait avoir 10 ans, à Comblain-la-Tour. Et je vais parler un peu de moi-même, ici un peu. Moi, j'avais le trac, c'était ça, je ne pensais pas
vous,
tellement.
Vous, votre souvenir, c'est plus...
Ah oui, c'était un de mes premiers trucs en public, quoi. Alors, il y avait un chant énorme. Il fallait attendre, qu'est-ce que j'allais jouer, parler avec les musiciens. Et puis après, je suis retourné avec papa, maman et ma petite sœur à Bruxelles. J'ai pas de grand souvenir de ce festival-là. De ce festival-là, mais de ce jour-là, je ne sais plus. Je ne sais plus.
Avec nous également en studio, Laurent Grolus. Bonjour.
Bonjour,
Laurent. De Musique 3, où vous suivez en particulier hein, le jazz, l'actualité du jazz. Alors, vous n'y étiez pas à Comblain-la-Tour à l'époque. Hein,
je n'étais pas né.
Voilà, j'allais dire vous étiez trop petit, mais non, vous n'étiez même pas né. Alors, mais ça évoque quoi pour vous, Comblain-la-Tour?
Ça évoque la rencontre, je dirais, du jazz belge avec le jazz américain. Et ça a mis sur la carte aussi, peut-être, en tout cas dans notre imaginaire, le jazz belge qui a montré qu'il n'avait rien à envier au jazz américain. Et puis aussi, ça c'est un grand trompettiste de la génération de Philippe Catherine qui s'appelle Richard Rousselet, qui me l'a raconté pas plus tard qu'il y a quelques jours. Un journal local a dit « On est aussi grand que Newport ». Et oui. Newport, c'était le plus grand festival de jazz de l'époque, né en 1954, quelques années seulement avant Comblain. Et de dire ça dans un journal local, ça donnait une idée de l'ampleur de cet événement.
Allez, on se replonge en 1959 à Comblain-la-Tour.
août 1959. Perché en haut du village, la petite église montre l'arrondi de ses murs de pierre calcaire. Le clocher pointe un peu plus haut que les grands arbres plantés sur le parvis. En ce matin d'août, les brumes chargées de pluie s'accrochent au versant de la vallée. Les pentes boisées des collines dévalent, là où l'Ourthe a creusé ses méandres. Comblain-la-Tour n'est pas un village taillé pour les événements mondains. D'ordinaire, ce n'est pas ici que se pressent les musiciens les plus pointus, ni les stars du cinéma. Ce n'est pas ici que se retrouve l'avant-garde européenne et américaine. Et pourtant, la journée qui s'ouvre va marquer l'histoire du village. Monsieur le bourgmestre a beau inaugurer les festivités de ses sévères lunettes noires, on est bien loin des kermesses populaires que les autorités communales ont l'habitude d'organiser à Comblain-la-Tour.
Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, j'ai l'honneur et le plaisir de déclarer ouvert le festival de jazz de Comblain-la-Tour.
Le long de l'Ourthe, sur le terrain de foot, les filets du goal ont été retirés. Sur le fronton de la scène qui vient d'être monté, les mots jazz 59 ont été écrits en lettres noires sur fond clair. Un grand chapiteau blanc traverse la pelouse et des chaises métalliques ont été dépliées en rangées rectilignes. Sur le pont qui enjambe l'Ourthe, un villageois, Hilar, juché sur une échelle, installe des guirlandes lumineuses. Sur une banderole bien tendue, un drapeau belge et un drapeau américain se croisent à côté de cette phrase « Thank you, Joe Napoli ». Parce que quelque part, c'est l'histoire de cet Italo-Américain qui, ce jour-là, a placé Comblain-la-Tour sur la carte du monde.
Historique. Historique de ce festival, car vraiment je crois que cette histoire en vaut la peine. 1944, les soldats américains sont engagés dans la bataille des Ardennes en Belgique. Un GI blessé, Joe Napoli, retenez bien ce nom, Joe Napoli, trouve refuge chez de braves fermiers à Comblain-la-Tour. Chaque année, n'ayant pas oublié ses amis l'infortune, il revient à Comblain. La vie lui a réussi. Il est producteur pour une grande marque de disques à Hollywood. 1959, le toit de l'église de Comblain-la-Tour est percé. Les trésors ecclésiastiques risquent de s'abîmer. Mais pour réparer, il faudrait de l'argent. Joe Napoli organise le premier festival pour la réparation du toit de l'église. C'est aussi simple que cela.
C'est aussi simple que cela. Il est 11h, les spectateurs commencent à arriver en train, en voiture, à pied. Les artistes sont déjà là. Chet Baker, trompettiste, star américaine, doit être le clou du spectacle. Il y a aussi, évidemment, des musiciens belges.
Le meilleur bonjour de la part de Philippe Catherine pour tous les spectateurs de la télévision belge.
Dans cette drôle de foule qui rassemble de manière inédite les habitants du village en costume du dimanche, les musiciens américains en blazer noir et lunettes de soleil, les jeunes urbains en gabardine beige et cigarette aux lèvres, dans toute cette faune, un homme est totalement à sa place.
Ici Joe Napoli. J'espère que tous sont venus ici à Comblain-la-Tour pour amuser le festival.
Pull noir et col blanc, Joe Napoli rigole avec les uns et les autres. Le curé de la paroisse et son chapeau à pompons, Chet Baker, la star dont il est le manager, les femmes du village, foulard noué sur la nuque, Joe Napoli connaît tout le monde, y compris les journalistes de la Meuse, Raymond Aretz et William Rotteau, et ceux de l'INR qui ont organisé le festival avec lui, Jean-Marie Peterken et Nicolas Dor.
Je l'ai rencontré en 1953. Il était l'impresario personnel de Chet Baker, le trompettiste qui est mort il y a un an. Et je l'ai rencontré lors d'une tournée ici en Belgique. On a gardé les contacts parce qu'il travaillait à Hollywood dans une firme de disques. Il m'a envoyé des disques pour les émissions de radio que j'ai commencé en mai 1956. Et puis, il lui est venu l'idée de faire un festival de jazz à Comblain-la-Tour parce que, en tant que GI, il avait été, après l'offensive von Rundstedt, recueilli par des habitants de Comblain-la-Tour. Bien plus tard, en 1959, il a vu que l'église était démolie et il a dit « on va faire quelque chose avec Chet Baker ». Il a demandé à l'émission Jazz pour tous, Jean-Marie Peterken et moi-même, « pouvez-vous amener des tas de musiciens pour entourer Chet Baker ?» Et grâce à des appels radio, philanthropiques si j'ose dire, nous avons réuni suffisamment de musiciens pour avoir 7000 personnes. Et ça a été le premier festival. Les autres, c'était des festivals avec 30, 40 et 50 000 personnes. Comblain-la-Tour est devenu célèbre grâce à l'idée première de Joe Napoli que nous avons bien entendu polissée et arrangée. Nous étions co-organisateurs.
Il va pleuvoir des cordes toute la journée du 2 août 1959. Mais en effet, le festival va connaître un énorme succès. C'est un des premiers Band Aid. C'est un festival caritatif.
Étant donné l'immense succès 1959, 1960 voit la réédition du festival, dont le bénéfice n'est plus pour réparer une église, mais beaucoup mieux maintenant, est distribué et donné au Père Pire, prix Nobel de la paix, qui s'intéresse aux personnes déplacées. Cette année, le profit du festival sera donné, lui, à la Croix-Rouge de Belgique.
L'année suivante, en 1961, le dispositif est encore plus impressionnant.
Eh bien, j'ai à côté de moi le car de Radio Luxembourg. Et près de ce car, nous avons trouvé Marcel Faure qui, entre deux présentations, vient retrouver ses amis techniciens. Bonjour Marcel Faure.
Comment allez-vous ?
Moi, je vais très bien.
Eh bien, écoutez, c'est un déploiement de force sensationnel. Toute la radio, la télévision, tout le jazz est là. À Comblain-la-Tour, c'est vraiment quelque chose de magnifique.
Parce que les médias sont là en masse. Des radios du monde entier, de la BBC à la RAI en passant par l'ORTF, couvrent l'événement. Ces dizaines de milliers de personnes qui viennent de partout pour se retrouver sur le terrain de foot d'un village des bords de Lourdes. Cette année-là, en 1961, comme toujours il pleut à Comblain-la-Tour, une blonde, style Marilyn Monroe, s'apprête à monter sur scène.
Elle n'a jamais chanté en public. Elle vous offre sa grande première mondiale du tour de chant jazz. Voici Diana Dorf.
Good evening, ladies and gentlemen. Bonsoir. I'd like to sing a song for you now. It's a very beautiful song. It happens to be a great favorite of mine, and I hope you like it too. It's called Imagination. Thank you. Imagination is funny. It makes a cloudy day sunny.
Diana Dorf est une star du cinéma et sa venue amorce une tendance qui va s'installer à Comblain-la-Tour. Plus de stars, plus de paillettes, plus de showbiz. Sylvie Vartan en 1962, Salvatore Adamo en 1963, en 1965 l'attraction, c'est l'acteur Roger Moore. Jeanine Lambotte commente son arrivée sur scène.
Bien voilà la présentation de Simon Templa sur le podium. Il faut dire qu'elle est accueillie en sens divers. Car parmi les 20 000 jeunes qui sont ici, certains sont venus uniquement pour le jazz et pas du tout pour le synth. Alors, il faut dire que si certaines filles seraient tout à fait d'accord pour se pâmer, eh bien beaucoup de garçons, eux, ne le sont pas du tout. Et on lui lance quelques tomates, on lui lance quelques mottes de terre, on lui lance quelques ustensiles divers. Il n'a pas l'air du tout gêné d'ailleurs, et très gentiment il continue à sourire et essaye d'attraper au vol quelques projectiles. Sa situation n'est pas drôle, mais il a fait rire tout le monde. Et voilà, la situation se retourne pour lui et on finit par l'applaudir aussi gentiment que lui accepte la situation. Les gens les plus extraordinaires, les plus insolites, les plus conventionnellement étranges ou les plus réellement originaux ne font même plus se retourner les habitants du village qui en a vu d'autres. Mais si vous voulez notre avis, eh bien ce sera encore OK Comblain l'année prochaine.
OK Comblain en 1966, mais ce sera la dernière année. Le rock et les yéyés ont envahi le festival. Les puristes ne s'y retrouvent plus tout à fait, comme le comédien belge Jean-Claude Drouot.
Je suis assez séduit par, disons, le niveau d'âge très jeune de la fréquentation ici des gens qui sont là. On a été très frappés en arrivant de voir combien était jeune cette fréquentation. Je ne sais pas à quoi ça correspond, je ne sais pas quel est le jazz. J'aimerais demain pouvoir savoir quel est le jazz que ces jeunes-là aiment.
À votre avis?
Je ne sais pas, j'ai peur de comprendre.
C'est-à-dire?
Je ne sais pas. Vous dites que vous avez peur de comprendre. Parce que j'aime énormément pour ma part le jazz, disons traditionnel. J'aime beaucoup Duke Ellington, j'aime beaucoup Lasso Young, tout ça. Et peut-être ne viennent-ils pas pour écouter ces couleurs de jazz-là.
Dans quelques heures, John Coltrane montera pourtant sur scène avec son quartet pour un concert resté dans les annales. concert de John Coltrane lors de ce dernier festival de Comblain-la-Tour en 1966. Philippe Catherine, en écoutant ses archives et en réécoutant le début du récit en 1959, hein, date de ce premier festival de Comblain-la-Tour, où donc vous étiez pour jouer, vous nous le racontiez, vous aviez 17 ans et vous montiez plein de tracks sur scène. Vous me disiez qu'il avait fallu attendre pour monter sur scène parce que Chet Baker était en retard.
Oui, effectivement. Et il jouait avec, si je ne me trompe pas d'année, en tous les cas, avec Kenny Clarke. Et je crois que Kenny Clarke ne pouvait pas arriver sur scène parce qu'il n'avait pas de badge. Donc il y avait deux raisons. Il y avait Chet qui avait un problème, je ne sais pas lequel, et Kenny Clarke ne pouvait pas monter sur scène. Et je crois que le bassiste était Benoît Kersin, si je ne m'abuse.
Quand on entend, et c'est marrant quand vous parlez de badge pour arriver sur scène, on voit que c'est un grand événement. Quand on entend ces archives, il y a quand même quelque chose d'assez avant-gardiste, non, dans ce festival?
Ah ben oui, surtout en tant que festival, parce que c'était un festival, je crois que...
C'est quelque chose qu'on ne voyait pas.
C'était un des premiers grands festivals dans le monde, voilà.
C'est quelque chose qu'on ne voyait pas à l'époque, autant de musiciens comme ça, en plein air, avec un public qui vient, qui se rassemble dans des lieux excentrés des villes. C'est quelque chose qu'on ne connaissait pas?
Je crois qu'on ne connaissait pas. Non, non, effectivement.
Laurent Grolu, c'est un festival avant-gardiste, Comblain-la-Tour?
Oui, oui, c'est vrai que je rejoins Philippe Catherine. Je parlais du festival de Newport, né en 1954, tout près de New York. Et lui était déjà précurseur, le mot festival à partir de la musique de jazz. Et donc oui, en Belgique, Comblain-la-Tour, c'est quelque chose de tout à fait nouveau. La presse locale disait c'est le plus grand festival du monde. Elle disait aussi, on était plus nombreux qu'à Newport. Hein. J'en parlais tout à l'heure. C'est de dire combien ça a résonné à l'époque, ce festival, et puis la fierté aussi de pouvoir avoir les plus grands jazzmen au monde sur scène et qui côtoient, eh bien, à l'époque, des jeunes jazzmen comme vous, Philippe Catherine, qui aviez 16 ans ou 17 ans, on ne sait plus.
16 ou 17 ans, oui, mais j'étais inconnu à l'époque, hein. Je veux dire, je suis venu jouer juste deux morceaux, je crois, parce que...
C'était votre première scène ou une de vos premières scènes?
Ah oui, 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 absolument. Enfin, grande scène en tout le cas, une immense scène. Oui.
Mais alors, ce qui est assez intéressant, c'est que Comblain-la-Tour n'est pas une ville de jazz à la base. On a compris, c'est un peu le hasard, hein, de ce GI qui veut aider le village et qui a des contacts, évidemment, dans le monde du jazz et puis qui organise ce festival. Mais quelle place le jazz a à l'époque dans la société belge? Est-ce que c'est une musique qu'on écoute beaucoup, surtout le jazz américain, Chet Baker, John Coltrane? Ou est-ce que c'est une musique à l'époque qui reste quand même fort élitiste? Parce qu'il y a un vrai succès de public en même temps dans ce festival, Philippe Catherine.
Oui, il y a sans doute un côté élitiste, mais il y avait des très bons musiciens en Belgique aussi. Je veux dire, il y avait par exemple René Thomas, mais qui habitait à Montréal. Il y avait Toots Thielemans qui habitait en Amérique.
Oui.
Il y avait Bobby Jaspar qui habitait aussi en Amérique, qui s'est marié avec cette chanteuse qui s'appelle... j'ai oublié son nom, une magnifique chanteuse et pianiste.
Mais il y avait déjà toute une génération de jazzmen belges avant ce festival de Comblain-la-Tour faisait carrière, notamment à l'étranger.
Absolument, ce dont j'ai cité. Et en Flandre, il y avait Jack Sells.
Saxophoniste.
Hein. Saxophoniste, oui, oui. Qui était un très bon saxophoniste, mais qui était aussi... Lui, faisait ça. Il travaillait dans le port d'Anvers pour porter des trucs, je ne sais plus comment...
C'était docker.
Donc, il était docker, parce qu'il ne voulait pas faire de la musique commerciale. Et c'était quelqu'un comme ça, quoi, voilà.
Laurent Grolu,
très bon musicien.
C'était, à l'époque, le jazz, une musique, comme le dit Philippe, pas commerciale. C'était une musique de niche ou c'était quand même une musique qui touchait un public large en Belgique?
Alors, je dirais oui et non. Par exemple, l'extrait qu'on a entendu du quartet de John Coltrane, la musique qu'il fait à l'époque et qu'il propose à Comblain-la-Tour est une musique exigeante.
C'est déjà pointu.
Il ne fait pas de compromis. Il joue la musique qu'il a envie de jouer à cette époque. Mais en revanche, oui, le jazz, les grands orchestres, il y avait énormément de ce qu'on appelle des big bands partout à l'époque. Le jazz était vraiment omniprésent dans toutes les musiques. Beaucoup de chanteurs se faisaient accompagner de grands orchestres. Richard Rousselet, encore une fois, lui, trompettiste de jazz belge, né en 1940, je le dis pour le situer, me racontait que tout le boulevard Anspach était rempli de cafés où il y avait des thés dansants, où les gens dansaient le dimanche après-midi sur du jazz. On entendait énormément de jazz à la radio. Il y avait 5 orchestres à l'INR, dont des orchestres de jazz. Donc je pense que un certain jazz, en tout cas le jazz des grandes formations, était extrêmement présent dans la vie quotidienne.
C'est peut-être ça qu'il faut retenir, il n'y avait pas un jazz à l'époque, il y avait toutes sortes de jazz différents pour plusieurs publics en fait.
Oui, sans doute, et aussi, c'est vrai qu'il n'y avait pas de jukebox à cette époque-là, et que pour entendre la musique, il fallait que les musiciens soient là. D'ailleurs, moi-même, enfin, ça n'a rien à voir avec le jazz, mais j'ai fait des concerts privés avec des étudiants de Louvain qui étaient plus âgés que moi. On allait jouer un peu partout.
Pour animer les soirées.
Pour animer les soirées. Et alors
et vous ne jouiez pas du jazz, hein, c'est important.
On jouait de tout, tout ce qu'on pouvait jouer. On jouait de la musique populaire et des tangos, un peu de tout. Mais alors, ce qui était marrant à cette époque-là, c'est que on a même joué chez des gens très, très, très fortunés et tout ça, mais qui nous ont mis dans une autre pièce que les invités. Ça, c'était incroyable.
Avec la sonorisation dans la pièce où il y a les invités.
Avec une mauvaise sonorisation. Donc, les gens devaient danser sur la musique qu'on jouait à 100 mètres plus loin que de leur maison. Oui, et je me souviens même avoir dit quelque chose que tout le monde a entendu. Oui, j'ai dit, elle est bizarre, cette femme-là, en parlant de celle qui nous invitait. Mais tout le monde l'a entendu.
On sent qu'on est un peu dans une autre époque. Et d'ailleurs, Laurent Grelus a retrouvé un morceau. C'est le premier enregistrement de vous, Philippe Catherine, en 1958. C'est au Grand Prix de Belgique des variétés.
Ah oui.
Alors c'est intéressant parce que c'est un radio-crochet en fait. C'est
comme The Voice en radio.
C'est comme The Voice. Enfin, vous allez jouer pour un concours.
Ah oui, il y avait les éliminatoires, il y avait les premières, et puis les secondes, puis les troisièmes, comment on appelait ça, j'ai oublié.
Les finales ou demi-finales.
Les finales, demi-finales voilà. Et tout ça. Là, je l'ai fait deux fois ce concours-là, et je suis arrivé en finale la deuxième fois, voilà.
Et on va écouter ce morceau, Nuages, c'est une composition de
Django Reinhardt.
C'est votre idole, vous jouez ce morceau, on va l'écouter et puis on continue à en parler juste après. Thank you. 1958, c'est votre premier, le premier enregistrement.
C'est le tout premier, oui.
Vous avez 15-16 ans, là, à l'époque.
Non, je crois que j'ai 17, quand même. C'est gentil de me rajeunir, mais...
avec plaisir, avec grand plaisir. C'est fou parce que vous arrivez en finale de ce concours, si je ne m'abuse.
Mais j'étais pas le premier en
finale. Vous n'étiez pas le premier ?
Sinon, j'aurais eu une voiture.
Ah oui, vous n'auriez pas pu la conduire.
Parce que le prix, c'était... Non, j'aurais pas pu la conduire. C'était Dieter Hein qui faisait ce concours.
Coccinelle, hein, à l'époque.
Coccinelle, oui.
Mais ce qui est quand même marquant, c'est que vous arrivez dans ce concours qui est un concours de variété. Vous jouez un morceau de jazz, instrumental.
Et je ne chante pas.
Vous ne chantez pas.
Non.
Et vous arrivez quand même en finale. Ça dit quand même quelque chose de l'époque aussi.
Il y a une place pour le jazz.
Il y a une place pour ça.
Oui, mais aussi, je crois que je fais chanter ma guitare. Il fallait bien que je fasse quelque chose avec le chant. Mais une amie de ma mère, qui était la première personne en dehors de ma famille à entendre cet enregistrement quand j'avais cet âge-là, j'étais tout fier de lui montrer parce que c'était la sœur d'une violoniste qui avait un Stradivarius, d'ailleurs. Et alors, elle écoute ça et elle me dit quelque chose qui m'a... J'étais triste d'entendre ça. Elle m'a dit... « Ah ben, Philippe, tu as un très beau son. » Je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que ça? Moi, j'ai une Gibson, j'ai un ampli et tout ça. Je n'ai pas pensé du tout au son. Mais pas une seule seconde. Et j'étais vraiment très triste parce que ce compliment, si c'est tout ce qu'elle a à dire...
Vous auriez voulu qu'elle vous dise quoi?
Ben oui, que je jouais bien du jazz, que ça swing, que j'avais fait de belles phrases ou des trucs comme ça. Mais elle parlait
parce que vous étiez centré sur le langage du jazz et sur la...
Oui, et le son...
Le fait d'improviser.
J'ai jamais rien... Enfin, à cette époque-là, j'avais même pas pensé à qui avait le son dans la musique.
Elle avait raison, pourtant.
Oui, elle avait raison. Oui.
C'était spontané, quoi, quelque part, le son... Vous produisiez.
Oui, bien sûr, bien sûr.
C'était pas une dimension très réfléchie, c'était vraiment spontané. Mais donc, ce qui est intéressant, c'est que dans le The Voice de l'époque, il y avait une place pour le jazz. Laurent Grolus, il y avait, dans les productions de l'INR, qui est devenue la RTB, puis RTBF, etc., une place pour le jazz dans ces années 60.
Énorme, je pense que Philippe Catherine a connu cette époque. Je le disais tout à l'heure, il y avait des orchestres maison. On pense toujours à l'orchestre de la RTBF qui était dissous en 1991, qui était un orchestre symphonique maison, mais il y avait des orchestres de jazz, des orchestres de variété, un orchestre de bal, je ne sais pas quel était son nom exact, mais en tout cas pour faire danser, ça remonte un petit peu à avant 1958, mais ça faisait vraiment partie, c'est pas pour rien qu'une institution publique comme la nôtre, en tout cas l'Institut National de Radiodiffusion, avait des orchestres. Et il fut une époque même où avant que les disques ne soient, je parle ici des disques noirs, donc des vinyles, ne soient généralisés, il y avait des orchestres qui jouaient pour meubler jusqu'au top. Il manque 3 minutes.
On ne pouvait pas mettre un disque, il fallait que l'orchestre joue.
Là, on parle des années 30-40, mais cette tradition a perduré, en tout cas jusque pour les orchestres de jazz, jusque dans les années, début des années 70-74.
Et puis d'une manière générale, il y a quand même aussi beaucoup plus de transmission entre la variété et le jazz. Vous voyez, il y a beaucoup de musiciens de jazz qui jouent pour Sylvie Vartan, Sacha Distel. Enfin, bon, c'est vrai, il y a pas mal de connexions qui sont peut-être moins fortes aujourd'hui entre les musiques qui sont diffusées sur les stations populaires et le jazz.
Oui, absolument. Et de toute façon, la musique qui swing ou qui a du groove, c'est un peu la base de toutes les musiques d'aujourd'hui même. Même s'il y a le rock'n'roll, il y a le blues, il y a tout ça vient quand même un peu du jazz, je trouve.
Oui, il y a un esprit, donc quand vous parlez de groove, vous parlez du fait qu'on a envie de bouger, on a envie de danser, parce que le swing, c'est une musique de danse. Hein, dans les
c'est vrai, mais ça ne se fait plus maintenant, on ne danse plus sur le swing, je ne crois pas.
Non.
Mais y a ce groove dans la musique, que ce soit Duke Ellington, que ce soit James Brown, ou que ce soit, je ne sais pas moi...
Ça vaut peut-être la peine de se poser la question, et puis après on reviendra à Comblain-la-Tour, mais tant qu'on parle de jazz, qu'est-ce qui fait, et je vous poserai la question à tous les deux, qu'est-ce qui fait le jazz? Qu'est-ce qui définit le jazz? C'est quoi l'essence?
Oh là là, difficile. C'est une musique un peu plus sophistiquée. Enfin, il y a un peu de tout dans le jazz, parce qu'à cette époque-là, il y avait le free jazz aussi qui était populaire, qui était à mon avis élitiste. Mais alors, il y a les recherches harmoniques. Ça passe un peu, peut-être, inaperçu, mais dans les systèmes de jazz, il y a beaucoup de finesse harmonique aussi.
Vous diriez que c'est l'harmonie. Laurent Grolus, je pense que pour vous, le jazz, par nature, c'est aussi l'improvisation.
Oui, je pense que c'est bien sûr. C'est un des cœurs, mais
il faut faire attention à Philippe Catherine
parce qu'il est d'accord.
Parce qu'on peut être un improvisateur et pas faire du jazz. Parce que Bach improvisait, je veux dire, Chopin improvisait, tout ça. Mais comme il ne pouvait pas enregistrer, il devait bien l'écrire quelque part.
Oui, c'est vrai que vous avez raison. À l'époque baroque, on improvisait et c'est quelque chose qui s'est perdu au 19e siècle avec les conservatoires. Donc c'est vrai, c'est bon de rappeler que dans...
Mais je rappelle ça parce que parfois j'entends des musiciens qui se disent de jazz et je trouve que, tiens, pourquoi est-ce qu'ils appellent ça comme ça?
Allez, on remonte relativement peu souvent jusqu'à l'époque baroque dans cette émission. On raconte aujourd'hui ce festival de Combelaine-la-Tour dont on a peut-être un peu de mal à se figurer le succès. Aujourd'hui, en 1961, la RTBF avait produit une émission radio clé sur porte à envoyer à Radio-Canada pour expliquer ce que c'était ce festival de Combelaine-la-Tour pour que les Canadiens puissent en profiter. On en écoute un extrait.
Troisième année de festival. Troisième année de succès. Nous citons quelques chiffres. Vous aurez une idée de l'importance de ce festival. Festival qui, l'an passé, a dépassé en nombre d'entrées le festival de Newport aux États-Unis. Il y aura, pendant ces deux jours de jazz, 19 heures de cette musique, plus 3 heures de music hall. Il y aura 230 vedettes qui vont défiler, 64 orchestres, attraction représentant 18 nations. Le plus grand festival du monde est aussi un festival de la radio puisqu'il réunit 17 radios du monde et est retransmis en Eurovision.
Voilà, c'est de la radio dans son jus hein, de l'époque 1961. Qu'est-ce qui explique, à votre avis, que ce festival ait été un tel succès? Pourquoi est-ce qu'à ce moment-là, il y a tant de gens en Belgique, qui se disent « je veux aller écouter du jazz ».
Je crois que les gens avaient envie de faire de la fête
c'était
à l'extérieur. Oui, je crois quand même. Je crois quand même que ça... Je ne sais pas si c'est le jazz qui a amené les gens.
Ou le festival, le fait que ce soit un festival, le concept en fait.
Et puis l'offre n'était pas celle d'aujourd'hui, donc il y avait beaucoup moins de possibilités d'écouter cette musique. Donc je pense que c'était une fête en perspective avant d'y aller, et puis ça s'est révélé pour de vrai être une fête sur place, entre autres par la qualité et la diversité aussi. Je pense qu'ils ont osé, dès le départ, faire le pari de la diversité et aussi, de ne pas faire de compromis, c'est-à-dire de laisser les artistes s'exprimer comme ils le souhaitaient. Je pense que c'est important aussi, même très important.
Mais oui.
Et c'est un peu un hasard, la Belgique, Combelaine-la-Tour. Bon, on a entendu, il y a cette histoire du GI, etc., mais... Au fond, est-ce qu'on peut dire que ce festival, il marque quand même une spécificité un peu belge pour le jazz?
J'ai un peu de mal à répondre à votre question.
Moi, je crois qu'il y a un peu des deux. Il y a un peu des deux. Les gens aimaient bien boire de la bière. Enfin, en Allemagne aussi, bien entendu. Et puis, il y avait quand même de très bons musiciens en Belgique. Mais je ne peux pas dire ça comme ça, parce qu'il y avait des très bons musiciens en Angleterre aussi.
C'est quand même chez nous que c'est arrivé.
Ah oui, ce festival-là, voilà. Oui, absolument.
C'est quand même, ça reste 60 ans après, quand même incroyable que ce soit arrivé chez nous.
Au regard de la taille de notre pays, Philippe Catherine, on a quand même un vivier depuis très longtemps d'incroyables musiciens. On est quand même au carrefour aussi géographique de toutes ces grandes villes, Londres, Amsterdam, Berlin, Paris. Donc, il me semble qu'il y a toujours eu une concentration assez incroyable quand même de jazzmen aujourd'hui. Mais
vous parlez d'aujourd'hui ou dans cette époque-là?
De cette époque-là et aujourd'hui aussi d'ailleurs.
Oui, tout ce que je sais, c'est que les musiciens dont j'ai parlé tout à l'heure, René Thomas, Toots Thielemans et Bobby Jaspar, Bobby Jaspar a joué dans le quintet de Miles Davis quand même pendant une période. Ça n'a pas été enregistré, mais il jouait avec ça aussi. Et il n'y a que 9 millions d'habitants en Belgique. Donc, je trouve qu'au point de vue proportion, il y avait beaucoup. Il y avait vraiment une densité de musiciens de jazz assez grande par rapport à peut-être à d'autres pays. D'ailleurs, je crois qu'il y a plus de musiciens belges qui ont été en Amérique que de Français. Il me semble, dans tous les cas.
Certainement, oui.
Mais il y a des grands musiciens en France, c'est pas ça, je vais pas...
On garde en tout cas de cette époque des précieux enregistrements ici à la RTBF, notamment parce qu'il y avait des émissions de radio, des émissions de télévision qui ont enregistré de nombreux lives, dont un live de Chet Baker dans l'émission Jazz pour tous. On va écouter Time After Time.
Time after time. I tell myself that I'm so lucky to be loving you. So passing years will show you've kept my love so young, so
on écoutait donc Chet Baker, un enregistrement réalisé en 1964 dans un numéro de l'émission Jazz pour tous.
La première, l'histoire continue.
Alors on va peut-être voir essayer de comprendre ce qui a changé depuis lors. Bon, on l'a déjà un peu fait, peut-être avec vous. D'abord, Laurent Grelus, vous nous disiez qu'une des grandes différences, c'est qu'il y a eu les écoles de jazz aussi dans le jazz. Par rapport aux années 50, c'était peut-être plus spontané. Enfin, c'était une musique d'autodidacte. Après, c'est devenu presque une musique de conservatoire aussi.
Oui, oui, c'est devenu une musique académique aujourd'hui. Ouais. Elle s'enseigne dans les conservatoires, dans les académies, les écoles de musique en Belgique. Énormément d'écoles de musique ont des sections de jazz, parfois de très, très bonne qualité. Donc, c'est évidemment quelque chose de très important de pouvoir l'enseigner. Mais en même temps, je pense que c'est important de garder la tradition orale. Et ça, c'est quelque chose qui se perd parfois un petit peu. C'est plus difficile d'apprendre aujourd'hui le jazz à travers la tradition orale. Je pense que peut-être, Philippe Catherine, vous pouvez compléter ça. Mais même vous, qui êtes né en 1942, vous avez été en 1972 à la grande école de jazz de Berkeley aux États-Unis, une des plus grandes écoles de jazz. Je pense que vous n'y êtes pas resté très longtemps, mais vous avez quand même fait cette démarche de vouloir aller dans une école de jazz.
Mais écoutez, c'est grâce notamment à Dick Swigham, qui est un tromboniste américain qui habite à Bonn, qui m'a proposé d'aller étudier à Berkeley. Et je suis très content de l'avoir fait parce que, effectivement, je suis pas un autodidacte dans le sens où j'ai beaucoup appris avec les musiciens avec lesquels je jouais. J'ai quand même joué avec plein de très très grands musiciens et ça, c'était mes profs en quelque sorte.
Mais c'est comme ça qu'on apprenait le jazz.
Sur le tas, quoi.
Mais non, mais je crois, oui et non, parce que les grands musiciens de jazz, enfin, le grand nombre étudiaient dans des grands conservatoires en Amérique aussi, hein. Miles Davis
À la Juilliard School.
À Juilliard School, pour ne citer que lui. Mais c'est vrai que du temps où moi j'ai commencé à jouer, il y avait pas ça en Belgique du tout. Enfin, pas à ma connaissance.
Non, ça vient à la fin des années 70 en Belgique, 1978.
Et je peux vous dire aussi quelque chose de marrant, c'est que quand j'ai joué avec Lou Bennett en 1961 au Blue Note et qu'on a fait un super concert, André Van der Noot est venu chez mes parents.
Qui était chef d'orchestre
Oui, pardon. Et il a dit, j'ai juste un message pour vous, c'est pour vous dire que votre fils est un musicien. Et moi, j'étais en troisième latine encore. Et ma mère dit, oui, mais quand il aura fini ses humanités, on l'enverra. Il pourrait aller au conservatoire. Et lui, c'est drôle, lui, il a dit, non, il ne faut surtout pas qu'il fasse ça, parce que je crois qu'il va perdre ce qu'il a. Ça, c'est bizarre quand même. Enfin, mais du coup, j'ai jamais été dans une école et j'ai fait des études de philo et lettres et de sciences économiques à la place. Je ne pensais pas devenir musicien.
C'était pas encore clair dans votre tête que c'est ça que vous vouliez faire?
Ah non, c'était pas clair du tout. J'adorais ça, c'était mon hobby. Mais quand j'entendais Coltrane, Miles Davis et tout ça, je dis oui, mais ça c'est magnifique tout ça, mais ça, c'est pas pour moi ça. Voilà.
Aujourd'hui, un jeune qui voudrait faire du jazz et devenir un professionnel du jazz, en tout cas jouer, en vivre, il pourrait le faire comme vous l'avez fait à l'époque, sans passer par les écoles de jazz?
Je n'en sais rien. Ouais, je ne sais pas.
Il n'y a plus les clubs aussi. Il n'y a plus la possibilité d'aller s'essayer. C'est beaucoup moins...
Surtout qu'à cette époque-là, quand on était engagé par un club, on jouait pendant un mois dans le même club. Maintenant, on joue un jour. Oui. Et puis c'est tout. Et ça fait une énorme différence. Parce qu'il faut plier bagages le lendemain, aller dans une autre ville. Et il y a quand même beaucoup de choses qui ont changé. J'ai du mal à répondre à votre question.
Mais il me semble que le jazz est devenu si technique aujourd'hui, les partitions qu'on écrit, ceux qui écrivent le jazz aujourd'hui, et c'est très logique, écrivent un jazz beaucoup plus complexe, je parle entre autres techniquement, et sans passer par une école,
ouais.
Il me semble difficile de pouvoir accéder, avoir le niveau technique, ne fût-ce que ça, pour pouvoir jouer le jazz d'aujourd'hui. Je ne sais
Mais
pas si vous êtes d'accord.
C'est que quand on apprend un thème sur papier, comme les musiciens classiques font, ils n'entendent pas sur cette feuille de papier le génie ou la beauté de l'exécution du thème. C'est pas l'exécution, c'est un mauvais mot.
L'interprétation.
L'interprétation, pardon. Et moi, je me souviens, René Thomas savait pas lire ni écrire, mais il écoutait les solos de Django Reinhardt. Mais il écoutait vraiment très fort, parce qu'un jour, il m'a montré, tiens, je vais te jouer le solo de tel guitariste. Mais il avait tellement écouté qu'il était certain que le fa qu'il faisait, il l'avait fait avec son deuxième doigt. Il comprenait vraiment. Enfin, il comprenait, je ne sais pas si c'est ça. Il était très proche de l'exécution. Non, de l'interprétation, pardon.
Oui. Un mot peut-être quand même sur le Comblain-Latour. Après cette glorieuse épopée jusqu'en 66, il y a eu une tentative, Laurent Gourlus, de faire renaître le festival qui a continué, donc quelques années. Et puis finalement, il s'est quand même arrêté. On a essayé, mais ça n'a pas marché.
Mais je pense qu'il y avait déjà beaucoup, au moment où on a voulu le faire renaître, il y avait déjà beaucoup d'autres festivals de jazz en Belgique, parce qu'il faut dire que quand même cette initiative a eu beaucoup de mérite, entre autres d'essaimer la volonté de créer beaucoup de festivals de jazz auxquels Philippe Catherine a, je pense, tous joué. Je pense au Gaume Jazz Festival, je pense au festival de Gouvy, je pense à Jazz à Liège. Et puis évidemment, chez nos collègues néerlandophones, le Jazz Middelheim à Anvers, où vous avez, je pense, souvent joué, le Gens Jazz maintenant. Et donc, je pense que ça a eu aussi cette vertu-là, Comblain-Latour, de montrer
des portes,
aux plus jeunes, absolument, de montrer à de plus jeunes organisateurs, organisatrices, que oui, c'était possible de faire un festival de jazz dans un petit pays et que ce soit viable, même si on n'a plus aujourd'hui des festivals de jazz où il y a 40 000 personnes. En tout cas, c'est ce qu'on nous raconte de Comblay-la-Tour dans les quelques éditions qu'il y a eu. Ça paraît tout à fait vertigineux. Mais c'est sans doute aussi grâce au fait qu'il y avait peut-être des artistes de variété qui attiraient aussi. Et ça continue. Des gens comme Sting sont invités à des festivals de jazz. Mais il faut dire que Sting, par exemple, il a commencé comme bassiste de jazz dans des big bands. Donc,
il y a
Sting,
un lien avec le jazz, quoi.
Sting est un jazzman formidable.
Philippe Catherine, pour terminer, vous diriez qu'il reste quoi, vous, de Comblay-la-Tour aujourd'hui ?
Ah ben, je ne sais pas. Excusez-moi, je suis sûr qu'il y a plein de belles choses. Mais je voudrais juste... Moi, quand j'ai entendu le jazz, je ne l'ai pas entendu dans des festivals. Hein. J'ai entendu ça dans des disques. C'était là ma source. J'allais de temps en temps. Je ne pouvais même pas aller dans un club de jazz. J'étais trop jeune pour ça. Il fallait avoir 18 ans. Moi, j'ai été séduit par le jazz. Enfin, par le jazz que j'écoutais à l'époque. Par exemple, lorsque j'ai commencé à écouter Django, je trouvais ça magnifique, très, très beau. Et je trouve ça encore aujourd'hui très, très beau. Et j'entendais d'autres musiciens comme le Modern Jazz Quartet, les Jazz Messengers. Mais tout ça sur disque. Je n'ai pas eu l'occasion de faire ça en regardant des festivals.
Il faut dire qu'il y a eu un petit moment de vide entre la fin de Comblain et puis les premiers festivals de jazz dans les années 70. Je pense que le Gaum Jazz a été créé en 1978, donc peut-être pendant quelques années, ça a été compliqué.
Ça a été un peu vide.
Ou en tout cas, il y en avait très peu, mais bien sûr, vous avez raison, Philippe Catherine, les disques et puis la radio, puisqu'on était la radio diffusait, notre radio, notre Institut National de Radiodiffusion n'était pas avare de diffuser du jazz à ces époques.
Mais je voudrais quand même ajouter, je ne me trouve pas comme un exemple à suivre. J'ai commencé avec Brassens, puis tout de suite Django Reinhardt, Errol Garner, et Jazz Messengers et tout ça. Et c'est eux qui m'ont, je sais pas moi...
Qui ont touché.
Ils ont marqué.
Oui, c'est ça.
Merci en tout cas, Philippe Catherine, d'être venu partager avec nous vos souvenirs de ce festival de Comblay-la-Tour et puis aussi de votre carrière, évidemment, longue et prolifique. Merci aussi, Laurent Grolus, d'être venu partager avec nous votre passion du jazz.
Avec plaisir.
C'était beaucoup de plaisir, en tout cas.
Mais oui, évidemment.
Oui, merci infiniment, en tous les cas.
Et puis, je voudrais signaler pour nos auditeurs qu'on peut encore écouter sur OVIO le concert des 80 ans de Philippe Catherine, 27 octobre 2022 à Flaget. Clara et Musique 3 étaient en direct et c'est un concert qu'on peut réécouter sur OVIO avec promo clé Philippe Catherine, à ne pas confondre avec le chanteur Philippe Catherine avec l'orthographe
Philippe
anglaise.
Philippe avec un P. Hein,
avec
enfin...
un P et l'orthographe
oui,
anglaise.
Oui, mais moi, c'est mon vrai nom.
Allez, merci à tous les deux.
Merci.
Merci.
Raconter le passé pour éclairer le présent, c'est ce qu'on fait dans l'Histoire continue.
Avec les archives de la Sonuma, une émission réalisée par Jonathan Remy.